Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Conessa. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Tu viens de publier ce nouveau livre, Avec Dieu, on ne discute pas, chez ton éditeur traditionnel, Robert Laffont, chez lequel tu as déjà une longue liste de publications. Donc, Avec Dieu, on ne discute pas. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, on est revenu aux guerres de religion ?
Moi, ce qui a motivé mon analyse, c'était un peu dans la suite de la fabrication de l'ennemi, c'est-à-dire, nous, évidemment, sommes préoccupés par le salafisme djihadiste, mais on s'aperçoit bien que sur les autres lieux de la planète, il y a beaucoup de massacres à dimension religieuse, que ce soit celle au Myanmar ou les Rohingyas, qui sont des musulmans importés depuis l'Inde par la colonisation britannique, se sont retrouvés dans ce pays au moment de l'indépendance, apatrides, etc., etc., et puis toute la mécanique ensuite de l'exclusion. Or, le bouddhisme, pour nous, c'est Mathieu Ricard et le Dalai Lama.
Bon, donc on dit, tiens, oui, c'est bizarre, pacifique et voilà.
Voilà, bon, si, tiens, ce pays. Bon, pareil pour l'hindouisme, où on s'aperçoit que quand Modi arrive au pouvoir, il commence par prendre des législations anti-musulmanes absolument fascinantes, dont une qui me laisse absolument béat, c'est le Love Jihad. Le Love Jihad, c'est une législation qu'a adoptée Modi, qui part du postulat que de jeunes musulmans sont mandatés pour séduire de jeunes filles hindouistes et ensuite de les convertir. Et donc la loi nouvelle autorise les parents à demander la dissolution du mariage. Donc je me suis dit, tiens, évidemment les évangéliques américains, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Et donc grosso modo, ça revient à interdire les mariages interreligieux, ou
ah oui, par exemple,
les rendre très difficiles.
Mais dans la plus grande démocratie du monde, oui. C'est encore une fois. Bon.
Et pays à réputation pacifique, le pays de Gandhi, etc.
Pays à réputation pacifique, c'est-à-dire comme toutes les religions ont toujours été violentes dans leur passé, si vous voulez, évidemment, c'est la reconstruction mythologique qu'on fait nous après autour de ces philosophies orientales, où on va avoir, si tu veux, pareil... Il y a un moment qui a cristallisé ma réaction, mon analyse, c'est effectivement la charnière 2001-2002. Parce que sur toutes ces grandes aires religieuses, on a un certain nombre de prises de position, bon, qui effectivement, pour le cas du World Trade Center, on voit quelle est la motivation de Ben Laden, c'est l'expression politique d'une espèce de radicalisme musulman qui va cibler sur les États-Unis, mais dont les origines sont en Arabie Saoudite, donc ça pose un problème géopolitique grave pour la politique américaine. Mais simultanément, on a, de quelques mois avant, les talibans qui vont détruire les Bouddhas de Bamiyan. Les Bouddhas de Bamiyan étaient un reste de l'époque de gloire bouddhiste, à l'époque où Bamiyan était un grand centre monastique bouddhiste, et ça va avoir des réactions au Myanmar. C'est-à-dire, c'est au Myanmar que tout à coup, le discours bouddhiste va se radicaliser, et donc viser les musulmans. Et puis, on a comme ça, pareil, des déclarations d'un rabbin radical juif, dont j'ai oublié le nom, et qui disait, il est hors de question de rétrocéder le moindre centimètre carré de la terre qui nous a été donnée par Dieu. Ce qui est une posture de négociation, en général, autobloquante, quoi. Et donc, je me disais, mais c'est intéressant que tous ces phénomènes se passent dans un laps de temps comme celui-là, parce que c'est pas à toi que je vais expliquer que le principe même de la recherche académique, c'est d'être propriétaire d'un morceau de fromage et puis de dire aux autres, tu viens pas chez moi, je vais pas chez toi. Bon, le problème, c'est que comme moi, je n'ai aucun morceau de fromage, si ce n'est la volonté d'aller bouffer chez tous les autres, c'est de dire, mais c'est la comparaison qui peut nous amener à relativiser, à analyser différemment, etc. Et comme nous, évidemment, étions surtout préoccupés par le salafisme, par les attentats à Paris, etc., je me suis dit, est-ce véritablement le point focal autour duquel il faut construire la réflexion? Et c'est pour ça que j'ai sous-titré « Désislamiser le débat ».
Oui. Et effectivement, dans sa préface, Farhad Khosrow-Khavar dit que tu as l'avantage, tu n'es pas un chercheur en sciences sociales, mais du coup, tu as l'avantage de décloisonner un peu la réflexion et d'aller sur différents points.
C'est vrai, et Farhad est justement un type que j'admire beaucoup parce que... D'abord, c'est un homme de terrain. Moi, mon terrain, c'était plutôt la classe politique. Et donc, j'étais plus...
Quelques radicaux quand même, oui.
Oui, mais j'avais plus l'habitude de voir comment se générer une décision politique par rapport à une réalité que quand j'étais à la délégation des affaires stratégiques. J'essayais de comprendre en rapport avec la recherche, mais on voyait bien comment une donnée, si tu veux, se délitait, soit dans le monde de la recherche, soit dans le processus qui amenait ensuite le politique à prendre une décision en disant, oui, mais attention, il y a les municipales dans 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, donc mon terrain à moi, c'était plutôt celui-là, et c'était intéressant d'être à l'articulation des deux. Le travers que j'énonce sur la recherche qui continue à sous-compartimenter tous les domaines en disant, attention, le véritable spécialiste, c'est lui. Et puis cette ambiance que tu connais, qu'heureusement je ne retrouve pas chez toi, c'est cette espèce de principe de l'invective, si tu veux, entre chercheurs. Tu sais, je ne vais pas citer deux personnes célèbres qui passent leur temps à s'invectiver sur la question de l'islamisme, savoir si c'est le radicalisme qui s'est islamisé ou si c'est l'islamisme qui s'est radicalisé, enfin bref, peu importe. Mais c'est un reste d'une époque.
Pour parler clair, tu fais allusion à la querelle entre Olivier Roy et Gilles Kepel.
Oui, oui, on peut les appeler comme ça, oui, effectivement. Oui. Je me dis, mais c'est fascinant. Et alors, par exemple, pour un bouquin que j'écris aujourd'hui, j'appelle Kepel, que je connais depuis une vingtaine d'années, deux fois au téléphone, il ne me répond pas. Et il m'avait dit, dans le temps, tu es une des rares personnes avec laquelle je n'ai pas de contentieux à Paris. J'avais dit, c'est normal, on ne travaille pas sur les mêmes sujets. Et deux coups de fil, il ne répond pas. Un mail, il ne répond pas. J'ai envoyé un mail en disant, Gilles, je suis désolé d'apprendre que je vienne de rallier la cohorte de tes ennemis parisiens, puisque je ne le savais pas, mais il paraît donc que si tu ne réponds pas, c'est que j'ai dû te causer un tort que je ne connais pas, mais j'assume. On est dans cette situation d'esprit où aujourd'hui le débat politique, le débat scientifique n'est pas un débat sur l'objet, c'est un débat sur les hommes. Bon. Et du côté de la classe politique, évidemment, il se passe un phénomène qui est le court terme par rapport au long terme, c'est-à-dire que le changement géopolitique majeur qui s'est passé après 91, après la disparition de l'URSS, c'est qu'il fallait avoir une espèce de réflexion planétaire, parce qu'on se disait, si on néglige une crise à tel endroit, il va y avoir les Russes qui vont arriver, ou inversement. Bon. À partir du moment où l'ennemi principal disparaît, on a deux catégories, un monde utile, un monde inutile. Le cas paroxystique, c'est la Somalie. On commence à y intervenir pour des raisons humanitaires, puis quand les Américains perdent 17 GA, ils se disent, qu'est-ce qu'on a à faire de ces gens-là? Donc maintenant, plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Somalie. Ça veut dire qu'il y a un monde inutile.
Bon. C'est un peu la thèse de Jean-Christophe Ruffin dans L'Empire et les Nouveaux Barbares.
Oui, je me souviens plus, j'avais lu dans le temps, mais effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il résonne aussi comme ça. Et donc, le politique, maintenant, même dans les démocraties, n'est plus investi dans le long terme, parce qu'il se dit, mais si je déclenche une guerre, si je prends telle posture, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais perdre les prochaines élections? Bon, j'en ai un exemple très caractéristique. Je fais en 2014 un rapport qui a en particulier inspiré ce bouquin sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Un rapport demandé par une fondation privée, bref. Je sors mon truc décembre 2014. Décembre 2014, il y a les fêtes qui approchent, il y a le municipal, enfin bref, de quoi, pourquoi se préoccuper de ce genre de truc, de sujet futile. Janvier 2015, Charlie Hebdo, ensuite le Bataclan, etc. Donc je fais une vedette. Et je suis invité par la commission consultative des droits de l'homme à Matignon, qui me disent, vous êtes la seule personne à avoir fait un rapport sur ce sujet. Je lui dis, non, c'est pas vrai, il y a un rapport qui a été commandé à un préfet, mais il a été classé secret défense, ce qui est quand même une drôle de manière d'ouvrir un débat public, tu vois. Et je leur ai dit, mais de toute façon, ne cherchez pas à vous le procurer, il n'y a rien dedans, c'est peut-être pour ça qu'il est classé secret défense. Et je me retrouve face à des gens qui sont des plantes en pot. C'est-à-dire, les gens me disaient, mais vous vous rendez compte, monsieur, les mesures qu'on est en train de prendre, etc. Ils m'ont dit même, monsieur, avec les fonctions que vous avez occupées, on ne comprend pas votre position. J'ai dit, bah justement, c'est parce que j'ai occupé ces fonctions-là que je prends ces positions. Donc, si tu veux, t'es dans un débat qui est complètement codé, qui s'est recentré sur le national, et ce qui fait que, évidemment, une grande partie de la querelle dont on parlait tout à l'heure est une querelle dont l'enjeu est strictement national et honorifique. Qui va être le conseiller du prince? Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est justement d'apporter dans ce débat une relativité en étudiant d'autres radicalismes religieux. Juste un mot de définition, parce que, première remarque, Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu, manque de chance, comme on l'avait dit en 68, tu sais, Dieu est mort, et Élie Aventi avait répondu, Dieu est mort, signé Nietzsche, et un type avait tagué dessous, Marx est mort, signé Dieu. Bon. Et effectivement, c'est plutôt ça qui s'est passé, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y a une espèce de renouveau du religieux, mais ça tout le monde l'a constaté, moi ce qui me frappe, c'est la poussée des radicalismes. Qu'est-ce qui caractérise les radicalismes? C'est leur rapport à la violence. Si tu vois, t'as des fondamentalismes, comme par exemple les mormons, bon, ils font de mal à personne, ils sont au contraire plutôt même pacifistes par nature. Par contre, effectivement, dans toutes les religions sont apparues des grandes formes de légitimation de la violence à base théologique. Et ça, c'est la caractéristique qui m'a...
Tu parles de reconstruction mythologique, avec une mythification du passé, et notamment un passé victimaire qui justifie le passage à la violence.
Oui, parce que toutes ces grandes aires religieuses ont d'abord été traumatisées par le darwinisme. On ne mesure pas l'impact que ça a eu, on le mesure chez nous, évidemment, mais rarement sur les autres religions. À partir du moment où un type commençait à expliquer que l'homme descendait du singe, ça remettait en question un certain nombre de principes théologiques de la création du monde. En plus, Cuvier, qui constitue sa collection d'êtres préhistoriques, si tu veux, ou même du quaternaire, on se dit, mais donc il y avait quelque chose avant l'homme. Et comme disaient des proches, c'est ce que faisait Dieu avant la création de l'homme. C'est quand même une question importante, tu vois. Bon. Et donc, on est dans cette situation où tout à coup, toutes les grandes mythologies religieuses sont déstabilisées par ça. Deuxième chose, il y a évidemment la colonisation, c'est-à-dire qu'on va avoir les droits de l'homme et la religion chrétienne imposés par la force, ou en tout cas imposés par le poids des armes. Et donc, on va avoir à peu près dans toutes les grandes aires religieuses une espèce de réaction identitaire à base religieuse. Le monde qui nous surprend le plus, c'est celui, par exemple, des évangéliques américains. Tu sais qu'effectivement, aux États-Unis, débarquent les pères fondateurs, sont des protestants pour chasser d'Europe, etc. Et donc, ils considèrent que l'identité protestante, avec ses multiples écoles, est l'identité américaine. Et donc, ils ont régulièrement ce qu'ils appellent les revivals, c'est-à-dire des moments où tout à coup, il y a un sursaut du religieux et un espèce de retour identitaire. Et celui qui m'intéresserait le plus, c'est celui qui se passe à la fin du 19e, début du 20e, parce que commence à arriver en masse des Espagnols, des Italiens et des Irlandais, c'est-à-dire des catholiques. Et à ce moment-là, le durcissement autour de l'identité protestante sur le fait que les catholiques ne sont pas bienvenus dans ce pays. Alors, rappelle-toi que quand Kennedy est élu, tu te rends compte, si c'est beaucoup plus tard, on dit « Oh là là, quelle nouveauté, un catholique !» Bon. Et donc, dans toutes les religions, il y a eu cette espèce de réaction qui a commencé par raconter un discours victimaire. Alors, pour les protestants, c'était relativement facile à construire. Ce qui m'a plus intéressé, c'est le discours des hindouistes. À la fin du 19e, il y a donc un type qui va vivre pratiquement jusqu'aux années 50, qui s'appelle Savarkar, qui écrit un bouquin qui va être extrêmement important dans les années 10 et les années 20, qui s'appelle « Who is Hindu ?», c'est-à-dire qui a légitimité à être indien encore sous colonisation. Et donc, il va progressivement créer un parti de jeunes, exactement comme les jeunesses fascistes, si tu veux. Il va créer un parti politique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est politiquement opposé à Gandhi parce qu'il considère qu'on ne peut pas accepter que le Pakistan devienne indépendant. Parce que dans sa géopolitique, et donc vous pouvez remontrer une carte avec les cartes que je vous ai amenées, celle qui est aujourd'hui encore sur le site du BJP, du parti au pouvoir, ça inclut l'Afghanistan, le Pakistan, évidemment le sous-continent, mais aussi la Birmanie. Bon, donc on se dit, ce type avait une géopolitique qui évidemment, dans le cadre de la décolonisation, s'opposait à la création du Pakistan, chose que Gandhi va accepter. Et Gandhi est assassiné par un disciple de Savarkar. Donc quelqu'un qui, exactement, caractéristique classique chez les radicalismes religieux, l'ennemi, c'est celui qui est de la même religion et qui est un traître à la cause. On va le connaître avec d'autres moments, avec les accords de paix de Camp David, où Sadat et Rabin, qui sont assassinés chacun par un radical de leur propre camp. Et donc, on est dans cette situation où on construit un discours victimaire, par exemple, pour rester sur le cadre de Savarkar. Il explique que les 7 siècles de domination musulmane, notamment les Moghols, ont tué plus de 100 millions d'Indiens. On est très loin de la Shoah. Mais la mythologie, à force d'être répétée, devient un fait. Elle n'a jamais été étayée sur quoi que ce soit, mais ça ne fait rien, c'est un fait constructif de la victimologie, et donc la violence contre les musulmans est une violence légitime. Pareil dans d'autres endroits, si tu veux, où tu vas avoir avec les bouddhistes, encore une fois, l'idée que les musulmans...
Mais est-ce qu'on peut ramener toutes les violences que tu écris à un moment donné, que, par exemple, qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse religieuse dans notamment la querelle sunnite-chiite, aussi bien en Afghanistan, en Syrie, en Irak, bien sûr, mais deux questions par rapport à ça. Pourquoi il y a cette radicalisation qui n'existait pas avant? La différence sunnite-chiite, elle existe depuis longtemps, il n'y avait pas autant de violence. Et on a aussi d'autres exemples de violence qui ne sont pas liées à cette division. Par exemple, Lieberman, en Israël, n'est pas un pacifiste, mais il est parfaitement laïque. Et on pourrait citer par exemple au Karabakh, finalement l'Iran est plutôt du côté de l'Arménie, bien que l'Arménie soit chrétienne et l'Iran chiite. Donc voilà deux questions, pourquoi plus de violence aujourd'hui qu'il y a quelques années, et est-ce que cette grille de lecture de violence, j'entends que on a trop longtemps sous-estimé le facteur religieux, notamment comme tu l'expliques, bon, du fait d'un notamment au début du XXe siècle, est-ce que maintenant on ne surestime pas?
Écoute, de toute façon, tu sais bien que, comment dire, la géopolitique est une espèce de système, comment dire, en tranche napolitaine, c'est-à-dire que tu as des conflits traditionnels qui se pérennisent, des conflits nouveaux qui apparaissent, etc. Bon, moi, j'ai évidemment focalisé l'explication autour de la question du radicalisme religieux, parce que je lisais très souvent que la religion était instrumentalisée par le politique, et moi, j'arrive à la conclusion contraire. Je trouve que c'est la religion qui instrumentalise le politique aujourd'hui. Et comme on a considéré dans une vieille tradition sociologique du 19e siècle que la religion était un phénomène résiduel, qui était le résultat des conditions sociales, économiques, etc., etc., on est parti sur l'idée que tous les salafistes qui pouvaient faire commettre des attentats ne pouvaient être que des types de banlieue, tu vois. Or, le 11 septembre, c'est 15 Saoudiens qui n'avaient aucun problème de niveau de vie, tu vois. Donc, on était dans des problématiques dans lesquelles le religieux était une conséquence induite. Moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, par la comparaison internationale, c'est le fait que le religieux a une dimension qui est reconnue, d'ailleurs, c'était ce que disait Kant, hein, qui a sa propre logique, et que, bref, il faut reprendre une partie de notre argumentaire. Ça ne veut pas dire que j'explique toutes les crises de la planète, mais enfin, quand tu vois qu'à Anderlecht, tu vas avoir un sunnite qui va attaquer la mosquée chiite d'Anderlecht parce qu'il veut venger ses camarades sunnites qui sont poursuivis par Bachar el-Assad à la Witt, je te dis qu'il vaut peut-être mieux qu'on s'en préoccupe, mais sous cette dimension-là. Quoi.
Et pourquoi cette, notamment ce clivage chiite-sunnite, mais tu cites d'autres radicalismes, pourquoi l'hindouisme est plus radicalisé aujourd'hui qu'auparavant? Pourquoi le clivage sunnite-chiite est plus violent qu'auparavant, alors qu'il existe depuis longtemps? Qu'est-ce qui a amené du fondamentalisme? Tu citais l'exemple des Mormons. Comment expliquer que des religions fondamentalistes deviennent violentes?
Écoute, bon, pour le cas particulier des sunnites-chiites, grosso modo, l'Iran devient la puissance chiite au XVIIe, XVIIIe siècle avec les Safavides à ce moment-là, effectivement. Ils vont vouloir se différencier parce qu'ils sont iraniens, ils sont pas arabes. C'est difficile à intégrer, mais c'est quand même une dimension essentielle. Et donc, ils vont devenir les champions de l'identité chiite. Mais surtout, ce qui va être le grand traumatisme...
En fait, au départ, c'est un projet presque national aussi.
Ah bah oui, absolument, oui, c'est ça. C'est pour ça que l'articulation du religieux et du politique est une question fondamentale, parce que tu te demandes si c'est effectivement le fait premier, c'est le nationalisme qui va se trouver une forme religieuse, ou si c'est l'affirmation religieuse qui va créer l'identité. Bon. Et donc, sans remonter si loin, si tu veux, l'année traumatique pour tout le monde, c'est 1979. Pourquoi? Parce que il va y avoir la révolution iranienne en février, c'est-à-dire tout à coup, les chiites, et avec l'ayatollah Khomeini, se proclament les défenseurs de l'islam. Alors ça, c'est gênant pour les Saoudiens, tu sais, ils sont de l'autre côté de la mer, enfin bref. Et en plus, ils réclament quelque chose qui est par nature une injure aux Saoudiens, c'est qu'ils demandent une gestion collective des lieux saints, par tous les musulmans, y compris les chiites. Bon. Deuxième phénomène, il y a l'occupation de la Grande Mosquée. L'occupation de la Grande Mosquée... La même année, oui, absolument. Et l'occupation de la Grande Mosquée n'est pas le fait de laïcs saoudiens, c'est le fait d'élèves du grand moufti qui s'appelle Ibn Baz, qui sortent de ces écoles et qui considèrent, et en affirmant que les Saouds ne sont pas des descendants du prophète, et donc il faut reprendre la légitimité politique. Bon. Alors il y a un phénomène qui est assez drôle, parce que donc les occupants, je crois qu'ils sont 19, qui occupent la grande mosquée pendant le pèlerinage, enfin ils occupent les quatre tours, ils tirent sur la foule, etc. Ça crée un phénomène absolument incroyable de panique de foule, etc. Mais le régime est bloqué par le fait que comme c'est un lieu de pèlerinage, normalement l'usage de la force est interdit. Donc il faut pouvoir faire intervenir les forces spéciales saoudiennes. Bon, ils tentent un coup, ils se font gonfler, mais enfin bref, peu importe. Mais il lui faut une légitimité religieuse. Donc il va s'adresser à la hiérarchie religieuse wahhabite, qui a quand même quelques intérêts liés avec le régime, et qui disent, mais ces gens-là occupent la grande mosquée en prétendant que le messie est de retour, puisqu'il fait partie de l'équipe. Alors les religieux doivent donner une réponse théologique qui arrive à justifier la violence. Alors ils disent, oui, c'est vrai que le prophète avait dit que le Messie reviendrait sur Terre, mais le Messie reviendrait pour chasser les régimes impies et corrompus. Or, l'Arabie Saoudite n'est ni un régime impie ni corrompu, donc c'est pas le Messie. Si c'est pas le Messie, on peut y aller. Et donc, ils vont mandater, en particulier, tu sais, le GIGN, parce qu'il leur manque de savoir-faire, pour aller dégager la grande mosquée. Mais ça, c'est un choc. Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur même du système saoudien, tu avais des types qui étaient en mesure non seulement d'aller vers ce radicalisme, mais en plus de contester la dynastie de Saoud. Et troisième épisode de 79, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. Ça va permettre d'expulser tous ces jeunes gens turbulents, puisque pendant longtemps, les Saoudiens vont être le plus gros contingent de combattants étrangers. Donc, si tu veux, ce paysage-là est un véritable, choc, évidemment, pour l'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs pour l'Iran. À avoir cette espèce de durcissement, par exemple, des postures, en se disant, mais... qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a la révolution iranienne, en particulier les chiites en Arabie Saoudite qui sont sur la côte Est, c'est-à-dire malheureusement pour eux sur les zones pétrolières, si tu veux, et qui commencent à bouger, ça inquiète terriblement les Saoudiens. Bon. Et donc, tu vas avoir progressivement cette fissure qui va se créer. Tu vas avoir aussi le fait que la guerre Iran-Irak est une guerre qui fondamentalement va se marquer comme la défense des pays sunnites contre l'Iran chiite alors que c'est Saddam Hussein qui est en fait la puissance agressive. Mais nous, sans se préoccuper uniquement aucunement de la situation, on va soutenir Saddam Hussein puisque, paraît-il, c'est un moderniste. Et donc tous ces phénomènes-là se sont
progressifs. On lui livre du matériel militaire.
Oui, le problème c'est qu'on lui a livré à crédit. Si tu veux. Ce qui était rigolo, c'est qu'on lui livrait du matériel pour qu'il gagne la guerre, mais comme il risquait de perdre la guerre, s'il perdait la guerre, on perdait plein de pognon, donc il fallait lui livrer d'autres matériels. Bon. Et on va donc lui livrer du matériel qui était normalement dans l'armée française. Donc si tu veux, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'analyse politique du moment ne partait pas d'une espèce d'analyse locale. Après tout, la révolution iranienne était une révolution populaire, on en pense ce qu'on en veut sur le message politique. Mmh. Enfin, bon. Et donc tous ces phénomènes-là vont créer cette espèce de fossé entre sunnites et chiites, et qui va ensuite se manifester dans différents théâtres d'opérations par cette radicalisation. Par exemple, quand le Royaume d'Arabie Saoudite pose sa charte constitutionnelle, il est écrit explicitement que la mission de l'État saoudien, c'est de propager l'islam, mais islam version wahhabite, évidemment pas. Bon. Or, pour les wahhabites, les chiites, c'est des traîtres. Donc cette gradation sur les bons croyants et les mauvais croyants, tu la retrouves dans beaucoup de ces radicalismes, par exemple en Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui considèrent qu'un juif libéral, si tu veux, est un mauvais juif.
Un traître,
absolument, mmh. Oui. Mmh. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que paradoxalement, dans ces radicalismes, l'ennemi premier, c'est d'abord le mauvais croyant. Après, ça va dégrader, tu vas avoir les femmes, tu vas avoir les
occidentaux. Et comment expliquer cette montée, non seulement une fois encore, du radicalisme, mais de la forme violente du radicalisme, le fait que l'on veuille éliminer à la fois le plus proche et l'adversaire, celui qui ne partage pas ta foi et celui qui est censé la partager, mais qui n'est pas sur le même bord politique?
Je crois que c'est une somme d'évolution. Par exemple... La colonisation va arriver avec ses pères blancs, avec ses missionnaires, etc., etc. Bon. Dans ce débat où, encore une fois, nous, on a eu l'habitude de négliger le politique. Par exemple, à la fin du bouquin, je cite un recensement qui a été fait aux États-Unis sur plusieurs revues scientifiques entre 1995 et 2000, je crois, et sur les quelques milliers d'articles, il n'y en avait que 6 qui traitaient des questions religieuses. C'est-à-dire que nous considérions que, si tu veux, la question religieuse était une question seconde qui méritait pas en tant que telle de comprendre l'évolution qui était en train de se passer. Bon. Et donc, si tu mélanges la colonisation, pour lequel la résistance s'est aussi assimilée à une identité religieuse. Dans le FLN en Algérie, tu avais évidemment des modernistes, mais tu avais aussi le renforcement de cette identité religieuse. Tu vas le retrouver aussi en Inde, encore une fois avec cette opposition Gandhi-Savarkar, mais on va le retrouver à peu près partout, et y compris, je te dis, chez les évangéliques, qui vont considérer que l'arrivée de ces catholiques est une menace pour l'identité américaine. Bon. Et donc, ceci conjugué à la fois à des postures impérialistes, par exemple les Américains, il y a toute une école géopolitique qui considère que les États-Unis ont été créés autour du principe de la destinée manifeste que tu connais, c'est-à-dire les Américains sont là pour apporter la démocratie et le bien dans le monde. Alors ils commencent par massacrer les Indiens, parce que ceux-là, ils occupaient un peu d'espace. Mais tout ça autour de l'idée de la destinée manifeste. Et puis ensuite, ça va s'exporter vers l'Amérique latine, etc. Le tout devenant une espèce de véhicule qui, encore une fois, va imposer le mode de vie américain, c'est-à-dire en particulier aussi l'identité religieuse. Aujourd'hui en France, par exemple, tu as plus de conversions vers l'évangélisme que vers l'islam. Ouais. Mais bon, c'est l'islam qui fait peur. Ouais. Alors, en Afrique, si tu veux. Ce qui est intéressant en Afrique...
Et en Amérique latine aussi.
Et en Amérique latine, oui.
Dans ce paysage, puisqu'on arrive malheureusement au terme de l'entretien, comment tu situes la Chine? Parce qu'elle est perçue quand même par beaucoup comme non seulement le pays qui monte en puissance et donc qui fait peur. Comment tu articules la perception d'une menace chinoise et la perception de la question religieuse?
Moi, je crois qu'on est capable de créer de la menace un peu partout. Hein. C'est pas un problème.
La construction de l'ennemi qui était ton avant-dernier bouquin.
Ouais, c'était effectivement que... J'en suis toujours d'ailleurs à m'interroger pour me demander pourquoi c'est Poutine notre ami principal et pas l'Arabie Saoudite, mais enfin bon, comme j'obtiens pas de réponse, j'arrête de poser la question. Donc, on est capable de créer, encore une fois, des ennemis qui sont une espèce d'articulation de notre identité propre, de notre passé, ou du passé de l'autre, etc., plus toute une mécanique qui ensuite va se greffer là-dessus. L'exemple, si tu veux, le plus caractéristique, c'est celui des néoconservateurs américains, qui sont actuellement au pouvoir, mais qui sont très puissants aussi dans le système français, pour expliquer que l'avenir de la France se fait dans le sillage des Américains. La dernière décision gaulliste, c'était Chirac refusant d'aller en Irak. Or, tu as vu le succès du suivi américain en Irak, en Syrie, les attentats, etc. etc. Donc, tu te dis, est-ce que la géopolitique ou l'analyse stratégique est une étude de rationalité partant d'une crise, ou est-ce qu'elle est au contraire un espèce de débat interne à la capitale et dans le monde des grandes puissances, pour se dire, si les Anglais font ci et nous on fait ça, ça va être, peu importe que ce soit en Birmanie ou ailleurs, tu vois, c'est un espèce de terme de comparaison entre grandes puissances. Mais le problème, c'est que les autres ne sont pas au courant, c'est les grandes puissances qui doivent faire la planète. Et donc, tu as eu partout des retours identitaires, ben, on le voit évidemment dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman. Prenons le cadre de la révolution iranienne. La révolution iranienne, l'histoire iranienne, c'est quelques dates importantes. 1953, le régime de Mossadegh nationalise le pétrole, donc immédiatement coup d'État organisé par les Britanniques et les Américains. Alors qu'on nationalisait le pétrole, on avait 20 ans plus tard, on a vu que ça posait plus trop de problèmes. Mais là, à l'époque, c'était très dangereux. Donc, coup d'État et installation d'un régime qui est sur le régime du Shah, qui avait une police politique qui s'appelait la SAVAK, qui enlevait les mecs, qui les faisait disparaître, qui les assassinait à l'étranger. Et puis, évidemment, redistribution de la carte pétrolière, où cette fois, ce sont les Américains qui prennent la grosse part et les Britanniques la part minoritaire. Bref, 25 ans de dictature du Shah. C'était un moderniste, donc si tu veux, les femmes étaient libérées, etc. Et pour nous, d'être moderniste, ça suffisait comme analyse politique. Le fait que ce soit un régime corrompu, qui soit entouré par des mecs qui faisaient du trafic de drogue, etc., si tu veux, encore une fois, il ne fallait pas tout mélanger. Bon. Et donc, au bout du compte, moi j'étais allé plusieurs fois en Iran à cette époque-là, le fait qu'on puisse avoir une révolution populaire qui s'est manifestée par le soutien à Khomeini, etc., etc., c'était quand même quelque chose qui méritait d'être pris en compte. Rappelle-toi que quand on ramène Khomeini dans l'avion d'Air France, j'en parlais avec des mecs à l'époque, ils me disaient, nous, tout ce qu'on craignait, c'était que, si tu veux, on tire un missile sur l'avion d'Air France transportant Khomeini, parce qu'à ce moment-là, on aurait beaucoup de mal à expliquer qu'on l'avait protégé avant, et puis tout à coup, là, bref, ils sont tout contents d'atterrir à Téhéran, il y a 1 million de personnes qui accueillent Khomeini. Donc, on est dans une situation où tous les critères de choix, en se disant, mais est-ce que la modernité, c'était ce qui est en train de se passer, ou est-ce que la modernité, c'est le régime du Shah. Mais c'est pas grave, on s'est même pas posé la question. Saddam Hussein a fait faire un tour de Paris à ses équipes pour leur dire, écoutez, j'ai l'intention d'attaquer l'Iran, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors le discours de Khomeini, qui était effectivement, maintenant ça va être le triomphe de l'islam partout dans le monde, c'était pas fait non plus pour calmer les esprits, ça il faut bien le reconnaître. Et puis les exécutions, et puis tout ça. Bon. Mais ça fait rien, on s'engage dans une analyse géopolitique, encore une fois, qui est une espèce d'analyse objective, comment dire, totalement irrationnelle. On se dit, Saddam Hussein, il y a les industriels qui ont beaucoup d'engagement avec l'Irak, donc on y va, on va le soutenir. Mais au bout du compte, tu t'aperçois que ça a été une véritable catastrophe, que pour l'Iran, c'est un facteur identitaire important, 800 000 morts pour une guerre qui a duré 8 ans, c'est-à-dire 2 fois la guerre de 14, il n'y a pas une famille iranienne qui n'ait perdu quelqu'un. À l'époque, le désarmement des Iraniens était tel qu'ils envoyaient, tu sais, les Bassidj, les jeunes types désarmés sur les champs de mines pour faire sauter les mines pour qu'ensuite les combattants passent. Quand tu racontes ce martyrologue en Iran, les gens savent de quoi tu parles. Mais si tu dis, ah non, mais Khomeini, ce qui se passait à Téhéran, les déclarations, les enlèvements, etc., tu ne prends pas en compte la dimension de l'autre. Et c'est ça qui me gêne toujours, si tu veux, parce que cette espèce d'assurance qui nous occupe, nous, occidentaux et particulièrement français, c'est qu'on sait que la Terre est plate et qu'on est le centre du monde. Et donc, c'est les autres qui doivent comprendre qu'ils sont à la périphérie, tu vois.
On va en terminer là-dessus. Merci, Pierre. Je renvoie donc à la lecture de ton livre « Avec Dieu, on ne discute pas. Les radicalismes religieux désislamiser le débat ». Et ça vient tout juste de sortir aux éditions Robert Laffont.
Juste une petite anecdote, parce que c'est la dernière que je trouve la plus belle. Donc, il y a un téléprédicateur saoudien là qui a dit « Le prophète n'aimait pas les souris ». C'était une société nomade, c'est les souris, c'est les rongeurs qui bouffent les raisins. Or, Mickey Mouse est une souris, et Mickey Mouse est une souris américaine qui est destinée à pervertir la jeunesse saoudienne, donc il faut interdire les dessins animés de Mickey Mouse. Voilà.
Merci.